Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Oreste a vengé son père en assassinant sa mère Clytemnestre et Égiste, son amant. Hermès décide qu'Ulysse en a assez vu et qu'il est temps pour lui de continuer sa route. Ulysse est retourné chez Circé. Il a rendu hommage à Elpénor, puis il a repris le chemin du retour, non sans avoir écouté les conseils de la magicienne qui l'a prévenu des dangers qui le guettent. Ulysse s'est fait attacher au mât de son navire pour pouvoir découvrir le chant mélodieux des sirènes. Ses hommes ont les oreilles bouchées et ne peuvent les entendre, mais lui ne résiste pas à leur attraction. Le bateau fend les flots à bonne vitesse depuis plusieurs heures déjà, lorsque le timonier, chargé de faire le guet, se met à crier. « Attention ! Là, à droite ! Gros récif ! Nous fonçons dessus !» Aussitôt, le capitaine change de cap. Le bateau dévie de sa route pour ne pas heurter le récif. « Attention ! Là, à gauche, un autre !» hurle l'homme de garde. Hop, un tour de gouvernail, le bateau change encore de direction. Mais aussitôt, un nouveau récif surgit devant lui. En un instant, Ulysse prend la mesure du danger. « Nous sommes au milieu des roches errantes, » dit-il à ses hommes. « Ces récifs se déplacent. Ils s'engloutissent et réapparaissent, sans que nous puissions prévoir où. Il va falloir manœuvrer serré, si nous ne voulons pas que notre coque soit déchiquetée par ces maudits rochers. » Ulysse empoigne le gouvernail et se met à manœuvrer. Mais dès qu'il a évité un rocher, celui-ci réapparaît un peu plus loin. Il lui faut avancer délicatement, anticiper les mouvements des roches. À bord, chacun retient son souffle. Le soleil darde ses rayons de feu. De larges rigoles de sueur coulent dans les yeux d'Ulysse, malgré le bandeau qu'il a noué sur son front. Un bruit sourd de raclement se fait parfois entendre. Celui du frottement de la coque contre l'un des rochers. Enfin, après de longues heures à manœuvrer ainsi, Ulysse réussit à s'éloigner de la zone dangereuse sans que les pointes acérées aient percé le ventre du bateau. Lorsque les roches errantes sont loin derrière eux, les marins poussent de joyeux hurrahs et félicitent leur chef de les avoir tirés de ce mauvais pas. Le navire vient de s'engager dans un étroit défilé entre deux îles. Les cris de joie résonnent le long des parois rocheuses, se répercutent en écho. Ce que Ulysse et son équipage ignorent, c'est qu'un monstre vit sur chacune de ces îles et que leurs hurrahs viennent de les réveiller. Le premier monstre s'appelle Charybde. Lorsqu'il se réveille, il inspire un grand coup et avale toute la mer autour de lui, engloutissant au passage les bateaux qui ont le malheur de naviguer à sa portée. Puis, il expire et recrache violemment l'eau de son ventre, créant ainsi de gigantesques tourbillons qui emportent les navires ayant échappé à la première aspiration. Dès qu'il aperçoit les remous, Ulysse comprend le danger. Il se met à crier. « Vite, vite, ramez, 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 résistez au courant !» Il faut nous éloigner le plus possible de cette côte. La coque du navire semble n'être qu'une coquille de noix, ballottée sur les flots agités. Pris dans les remous, le bateau tourne parfois sur lui-même. Une vague, plus forte que les autres, s'abat sur le pont et menace de tout engloutir. Il tient bon malgré tout. Mais les marins, en ramant comme des forcenés pour résister au courant, se sont approchés de l'autre île. Ils viennent sans le savoir de tomber de Charybde en Scylla. En échappant au premier monstre, ils se sont jetés dans les bras d'un second monstre, encore plus redoutable. Ils longent la côte de cette nouvelle île lorsqu'ils entendent un jappement de chiot, un petit cri de bébé animal qui semble être tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Des sourires fleurissent sur les visages des marins éprouvés. Ils sont soulagés d'avoir échappé à Charybde. Mais lorsqu'il lève les yeux, il découvre d'où proviennent ces bruits de chiots. et leurs sourires disparaissent. Celui qui jappe ainsi est un monstre doté de 6 têtes, avec chacune 3 rangées de dents pointues. De sa taille sortent 6 autres têtes, celles de chiens féroces, et son corps se termine par 12 pieds habiles à courir pour rattraper ceux qui cherchent à lui échapper. C'est Scylla. L'effet de surprise est tel que le monstre a le temps de se saisir de 6 hommes d'équipage avant qu'Ulysse ne donne l'ordre d'éloigner le navire de cette côte. En un instant, les 6 hommes sont soulevés dans les airs par le monstre. On dirait qu'il les a pêchés. Ils hurlent, ils se débattent, ils appellent Ulysse à leur secours, comme des poissons qui frétillent au bout d'une ligne. Mais il est déjà trop tard. Chacune des monstrueuses têtes de Scylla déchiquette un marin à belles dents. Éprouvé, l'équipage se met à ramer avec une force exceptionnelle pour tenter de se mettre hors de portée, car nul doute qu'une fois son horrible repas fini, Scylla voudra se resservir sur le bateau. Par chance, un vent favorable se met à souffler dans les voiles. Il aide les rameurs à prendre de la vitesse. Et bientôt, le bateau d'Ulysse est loin de Scylla. Cette nuit-là, Ulysse ne dort pas une minute. Ses compagnons, épuisés d'avoir eu si peur, ronflent sur le pont. Mais le sommeil des marins est entrecoupé de gémissements, de plaintes. Il leur manque la terre ferme pour les apaiser un peu. La nuit est noire. Les hurlements de ces hommes résonnent au plus profond d'Ulysse. Sa tête bourdonne d'images, de mots, de cris. Tant d'années, tant d'événements. Et ce mal du pays, si violent, si douloureux, qui l'asphyxie chaque jour un peu plus. La prédiction tourne et retourne en boucle dans son esprit. Tu rentreras chez toi, nu, pauvre et seul. Il ne reste plus qu'une poignée d'hommes à ses côtés. Comment va-t-il faire pour déjouer ce sinistre oracle et ramener ces hommes vivants chez eux ? À l'aube, lorsque les marins épuisés sortent de leur mauvais sommeil, ils aperçoivent le rivage d'une île. Pour une fois, un vent paisible et complice gonfle leurs voiles. Ils vont pouvoir accoster.
« Ah, il n'en est pas question !» dit Ulysse d'une voix forte. « Nous sommes en vue de l'île du soleil. Sur cette île paissent les magnifiques troupeaux de bœufs blancs appartenant au dieu Hélios. Nous ne devons en aucun cas les approcher. » Alors passons notre chemin. »
Les hommes se regardent en silence. Quelle déception. Eux qui rêvent de poser le pied sur une terre ferme, de quitter le roulis du bateau, de dormir quelques heures à même un sol stable. Ulysse fait mine de ne pas remarquer leur déception. C'est alors qu'Eurylope prend la parole.
« Tu es bien trop dur avec nous, Ulysse. Mais de quel bois es-tu donc fait ? Peut-être es-tu de métal. Pas nous. Nous tombons de fatigue, notre corps tout entier aspire au repos, et tu nous l'interdis. »
En entendant ces paroles, les hommes ont redressé la tête et repris espoir. Ils murmurent entre eux, d'un ton désapprobateur. L'un d'eux s'écrie.
« Ah, c'est bien vrai, Eurylope parle d'or !»
Un autre renchérit.
« Tu es notre chef, Ulysse, mais tu dois aussi nous écouter. »
Ulysse déteste le sourire satisfait qui apparaît sur le visage d'Eurylope. Celui-ci semble ravi de susciter cette révolte de l'équipage. L'irritation d'Ulysse grandit contre son second. Il lui revient en mémoire sa lâcheté sur l'île de Circé. Son intervention funeste lorsqu'il a poussé les hommes à ouvrir l'outre contenant les vents d'Éole. J'aurais dû me méfier davantage et renoncer à le ramener à Ithaque avec moi. Se dit Ulysse. Mais maintenant c'est trop tard. Si je veux éviter une mutinerie, je dois faire semblant de céder. Ah, les imbéciles qui écoutent ces belles paroles. Ulysse regarde douloureusement ses hommes. Il les dévisage soigneusement, un par un. Puis il dit.
Mes enfants, oui, je vous appelle mes enfants, car je me sens responsable de vous comme un père de ses enfants. Promettez-moi de ne toucher sous aucun prétexte au troupeau du dieu soleil si nous accostons sur cette île. Je tiens à vous ramener vivants à vos familles. Et de sombres prédictions m'ont annoncé le pire si vous commettiez ce sacrilège.
Ces dernières paroles sont couvertes par des cris de joie.
les hommes promettent dans l'allégresse. Nous ne resterons pas longtemps. Nous avons la nourriture que Circé nous a donnée en abondance. Nous ne toucherons pas une seule bête appartenant à Hélios. Tu as notre parole. Mais Ulysse se jure d'être vigilant. Cette île est boisée, couverte de petits ruisseaux, de vertes prairies. On entend de partout le bêlement des brebis, le mugissement des bœufs. Les matelots d'Ulysse préparent un véritable banquet pour profiter du lieu et se remonter le moral. La journée et la nuit passent. Mais le lendemain, lorsqu'ils veulent repartir, il n'y a plus un souffle de vent. Impossible de sortir le navire rouge de la crique où il a jeté l'ancre. Et les jours commencent à défiler. 2 jours, 3, 1 semaine, 2 semaines, 3, 1 mois. Ulysse enrage de voir ainsi le voyage du retour retardé. Mais le plus grave est la famine qui commence à tordre tous les estomacs. Les réserves données par Circé sont épuisées depuis longtemps. Et la pêche comme la chasse ne ramène que de maigres ressources. Les marins font la tête. D'autant qu'ils vivent environnés de riches troupeaux. Chaque bêlement, chaque meuglement leur arrache un soupir, aussitôt arrêté par un regard noir et inflexible lancé par Ulysse. Pas touche au troupeau du dieu. Un jour, Ulysse part un peu à l'écart pour prier les dieux. Il supplie Zeus et surtout Athéna, sa déesse protectrice, de venir à son secours. Ses hommes ne peuvent rester sans manger indéfiniment. Il risque de mourir de faim. Il implore leur aide. Pour apaiser ses tourments, les dieux de l'Olympe décident de lui envoyer un sommeil réparateur. Alors Ulysse s'endort paisiblement pour la première fois depuis des jours et des jours. Que n'a-t-il pas fait ? Profitant de l'absence de leur chef, Eurylope, encore lui, excite les hommes à la désobéissance. Allons-nous mourir de faim alors que de gras troupeaux paissent sous notre nez ? Tout cela pour obéir aux ordres d'Ulysse. Si nous ne prenons qu'une ou deux bêtes, personne n'y verra rien, pas même Hélios. De retour chez nous, nous ferons de belles offrandes aux dieux, et voilà. Un homme ose intervenir. Mais Ulysse ne nous impose pas ce supplice par plaisir. Il a été prévenu par le devin Tirésias et par la magicienne Circé. Si nous commettons ce crime, Hélios déchaînera la fureur des océans sur notre navire. Qui n'a jamais vu la lueur qui brille dans les yeux d'un homme affamé ne peut pas comprendre la suite de cette aventure.
« Eh bien, si tu dis vrai, » s'exclame Eurylope, « je préfère périr en mer sous les flots furieux que de mourir de faim sur cette île alors que la nourriture est à portée de ma bouche. »
À cet instant, un troupeau de bœufs arrive à quelques mètres pour brouter la bonne herbe grasse. Aussitôt, les marins d'Ithaque se précipitent. Pas de berger à l'horizon. Ils volent plusieurs magnifiques bœufs, allument de grands feux et les font rôtir. Pendant ce temps, Ulysse sort de son sommeil prolongé. Il regagne en courant la plage où le navire est arrimé. Une sourde inquiétude le tenaille. Mais avant même d'arriver, son nez est chatouillé par de délicieuses odeurs de viande grillée. Trop tard, il trouve ses hommes en train de se régaler de la viande savoureuse. L'un d'entre eux lui tend même joyeusement un morceau. D'un geste de colère, Ulysse jette la viande sur le sable.
« Je ne mange pas de nourriture volée à un dieu » hurle-t-il. « Mais vous êtes devenu fou !»
Déjà de sinistres présages apparaissent. Les carcasses des animaux tués continuent à mugir. Les peaux jetées sur le sol semblent bouger encore. Mais les hommes, aveuglés par leur orgie de nourriture, ne voient rien. Seul Ulysse, désespéré, s'attend désormais au pire. Sur l'Olympe, ce jour-là, l'assemblée des dieux va se terminer lorsque Hélios, le dieu soleil, fait son apparition. Son visage est rouge de colère et ses rayons lancent des éclats de feu.
« Que t'arrive-t-il, mon ami ?» s'inquiète aussitôt Zeus.
« Il m'arrive !» bégaye Hélios. « Que des humains se sont permis de voler mes troupeaux. Voilà ce qui m'arrive !»
Un murmure parcourt l'assemblée. Zeus se lève. « Qui a osé ? Donne-moi leur nom que je les punisse. »
Hélios se tourne alors vers Athéna et dit d'un ton sec. « Ce sont les hommes de ton protégé Athéna, le dénommé Ulysse. »« Encore cette crapule !» crie Poséidon, qui n'a toujours pas digéré ce qui est arrivé à son fils le Cyclope. Oh, « Il faut en finir avec ce provocateur qui ne respecte pas les dieux. » Athéna s'est levée elle aussi. Elle va prendre la défense de son protégé, mais Hermès lui fait discrètement signe de se taire. Et il déclare. « Mon cher Hélios, as-tu vu Ulysse en personne trempé dans ce crime ?»«
Bredouille le dieu soleil.
Non, pas moi, mais enfin, on m'a rapporté que... »
Hermès lui coupe la parole. « Moi, j'étais sur place, figurez-vous. Je faisais une petite sieste à ses côtés pendant que ces hommes volaient les bêtes. Il n'y est pour rien. Il a même tout fait pour empêcher ce vol. »
Il se tourne vers le dieu des dieux. « Et toi, père, Zeus, tu ne peux pas le punir, lui ?»«
Ça va, Hermès, ça va, » soupire Zeus. « Qu'on en finisse. J'enverrai mon foudre pour détruire ces hommes. » Et je n'épargnerai que lui. Êtes-vous satisfait là, l'un et l'autre ?
Hermès adresse un clin d'œil à Athéna, qui pousse un soupir de soulagement et fait oui de la tête.
Hélios bougonne, mais accepte aussi.
Alors Zeus frappe dans les mains et se verse une grande rasade de nectar. L'audience est levée. Sur terre, 6 jours se sont écoulés depuis le vol des bœufs. Et voilà qu'un petit vent se met enfin à souffler. Les hommes, repus, reposés, embarquent rapidement, non sans avoir l'inconscience d'emporter à bord les restes de viande et la peau des bœufs d'Hélios. Seul Ulysse garde un visage fermé. Lui n'a rien mangé depuis des jours, mais ce n'est pas la faim qui le préoccupe le plus. Le navire vogue depuis quelques heures déjà. Il n'y a plus aucune terre à l'horizon, juste le ciel et la mer. Soudain, une nappe de brouillard enveloppe le bateau. « Étrange !» murmure le timonier qui tient le gouvernail. En quelques instants, de noirs nuages sont amassés au-dessus du bateau. Ils crèvent brutalement en un orage aussi inattendu que violent. D'abord, c'est le vent, un vent terriblement puissant qui brise le mât en morceaux, fracasse le crâne du pilote. Puis le foudre de Zeus frappe la coque du navire et perce un grand trou à l'intérieur. Ulysse se précipite vers les débris du mât. Il attrape au passage un morceau de la peau d'un bœuf qui sèche sur le pont, au bout du mât, et s'y accroche de toutes ses forces. Ballotté dans la tempête, ce qui reste du navire rouge ressemble à une coque de noix fracassée. Seul Ulysse, enveloppé dans sa peau, arrive à garder la tête hors de l'eau. Combien d'heures dure la tempête ? Nul ne le sait, pas même Ulysse. Il voit sombrer son navire, ses hommes, pas un n'en réchappe. Accroché à son morceau d'épave, il passe ainsi une nuit entière. Lorsque l'aube arrive, le naufragé croise une côte. Et voilà qu'il se sent soudain aspiré par un énorme courant d'eau. Charybde ! S'il ne veut pas être englouti et noyé dans le ventre du monstre, Ulysse n'a que quelques instants pour réagir. Il aperçoit les branches d'un figuier qui s'inclinent vers les flots. D'un bond, il s'y agrippe. Il reste ainsi suspendu entre ciel et mer. Sa seule chance ? Que Charybde, en recrachant son eau, recrache également les débris du bateau qui lui ont sauvé la vie. De longues minutes passent. Ulysse ne sent plus ses bras douloureux, tendus comme des arcs. La tête lui tourne, ses doigts se desserrent malgré lui. Il faut tenir, tenir, tenir. Sous lui, les flots furieux l'attendent. Et pour ne pas lâcher, il convoque la seule image qui peut lui insuffler une parcelle d'énergie. Pénélope, sa lumière, son phare. Tenir, s'accrocher pour rejoindre son amour, sa terre, sa flamme, sa femme. Enfin, le monstre recrache son eau. Dans les tourbillons, surnage le morceau de mât et la peau de bœuf. Ulysse prend une grande inspiration et lâche la branche. Il atterrit dans les vagues, refait surface et s'agrippe aux débris qui flottent. De quoi reconstituer son radeau de fortune. Scylla dort-elle lorsque Ulysse, accroché à son radeau, passe près de son île ? Toujours est-il qu'elle ne tente rien. Ulysse peut échapper à ses griffes. Il est désormais perdu sur la vaste étendue d'eau, seul au monde. Il ne lui reste plus rien, ni navire, ni homme d'équipage, ni eau, ni nourriture. Juste un homme ballotté comme un bouchon de liège sur les vagues et qui espère encore et encore rentrer chez lui.